Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle formule de Un auteur, une voix, qui désormais durera 27 minutes d'affilée. Le samedi matin, à partir de 11h, on compte sur votre présence, comme d'habitude. En tout cas, nouvelle rentrée, nouvelle formule, et le plaisir d'accueillir Jean Jouteur. Jean, qui êtes-vous ?
Je suis donc Jean Jouteur, un jeune retraité qui a décidé de ne conserver qu'une seule activité, l'écriture.
C'est merveilleux, ça.
Mais c'est génial, oui.
Et alors, si on veut être un peu curieux, vos anciennes activités ?
Alors, j'avais plusieurs casquettes. J'étais d'abord thérapeute, psychologue, mais aussi comédien spécialisé dans la prévention des conduites à risque, notamment chez les adolescents.
Un lourd travail.
Un lourd travail, oui. Ça fait une trentaine d'années que je faisais ça. Un travail passionnant, intéressant, mais psychologiquement assez dur quand même, puisqu'il faut travailler avec des jeunes qui sont suicidaires, qui sont drogués, qui sont alcooliques, qui sont, enfin, voilà. Que des choses sympathiques. Pas seulement des jeunes, d'ailleurs.
Ah ouais. Garder de la distance et en même temps être proche.
Voilà, faire preuve d'empathie, beaucoup d'empathie, sans trop s'investir, parce que sinon c'est nous qui avons besoin d'un collègue. D'ailleurs, on est suivi toujours par des collègues également pour pouvoir continuer à travailler.
Ah ouais. Et en des périodes comme celle-ci, vous avez arrêté, mais ça doit être encore plus compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de demandes.
Oui, il y avait beaucoup de demandes, des gens qui étaient en souffrance parce que du confinement, parce que la peur de la maladie, parce que plein de choses aussi. Donc j'ai arrêté aussi parce que j'avais une compagnie professionnelle qui existait depuis 90, donc quelques années déjà, et le Covid a eu raison d'elle. Donc je me suis dit, puisque le Covid a gagné sur la compagnie, moi je vais gagner sur le Covid, je vais me réinstaller en Bretagne que j'avais quitté, mais on en parlera peut-être plus tard.
Oui, tout à fait. Et cette compagnie, un petit mot avant de parler de Bretagne.
Cette compagnie s'appelait Effet Act, elle était en région Rhône-Alpes, mais on travaillait sur toute la France.
Et vous faisiez des tournées ?
Alors on faisait ce qu'on appelait du théâtre participatif, c'est-à-dire c'est du théâtre qui fait participer le public sur des thèmes comme la drogue, comme l'alcool, des thèmes dont je vous ai déjà parlé. Et on faisait réagir les jeunes ou les moins jeunes sur des thèmes de société, on leur donnait la parole. Donc c'était un théâtre, on jouait avec le public constamment, un théâtre thérapie presque.
Et vous disiez votre retour en Bretagne, une réinstallation en Bretagne.
Oui.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est la Bretagne ?
Alors c'est la terre de mes ancêtres, c'est la patrie de mes ancêtres, ils étaient de Saint-Malo. Ils sont partis il y a très longtemps, puisqu'ils ont quitté la France sous la Révolution, sans doute pour se protéger de quelques excités qui avaient la guillotine facile. Et puis ils ont beaucoup voyagé, ils sont partis à La Réunion. D'ailleurs j'ai encore des cousins là-bas à La Réunion, ils sont partis en Indochine, ils sont partis en Afrique, où je suis né. Donc je ne vous fais pas la saga, mais j'ai fait toute ma carrière un peu partout en France. Et puis le jour de ma retraite, j'ai dit je repars en Bretagne, là où mes ancêtres vivaient. Et je suis bien maintenant.
On peut dire que c'est une famille de grands voyageurs.
Oui, de grands voyageurs, oui.
Avec une base solide, en fait, de la Bretagne.
Oui, mais c'est ça. Je parlais tout à l'heure de mon dernier bouquin, dans lequel, qui est une autobiographie romancée. Et j'ai appelé mon héros Johan. Et on m'a demandé pourquoi Johan alors que tu t'appelles Jean. Parce que mes grands-parents refusaient de m'appeler Jean, ils m'appelaient Johan. Parce que pour eux, ce n'était pas un prénom breton, Jean.
Et ils étaient de quelle région, de Bretagne ?
De Saint-Malo.
De Saint-Malo, ah, c'est le pays aussi des grands voyageurs, des corsaires et autres.
Oui, c'est ça, c'est la ville que j'affectionne particulièrement en Bretagne. J'ai cherché d'ailleurs une maison à Saint-Malo, mais je n'avais pas les moyens de me la payer.
Vous pourriez nous parler un peu de Saint-Malo et puis de l'endroit peut-être où vous habitez.
Alors je peux très peu parler de Saint-Malo parce que je connais le Saint-Malo en tant que touriste, c'est-à-dire que je prenais toutes mes vacances en Bretagne, chaque fois que je le pouvais, et la dernière fois, c'était l'été dernier, j'ai dit je ne peux pas repartir, donc je m'achète une maison. Donc c'est ce que j'ai fait, mais du côté de Brocéliande, à quelques kilomètres de Pimpon.
Oh, Brocéliande, c'est très bien aussi, mais c'est un autre milieu.
C'est un autre
Saint-Malo,
milieu, ouais.
La mer et Brocéliande.
Alors c'est un deal que j'ai fait avec mon épouse qui elle est plus forêt, moi plus maritime, mais c'est vrai que Brocéliande n'est pas très loin d'ici, on est à une heure de Saint-Brieuc, on est à une heure de Vannes, on n'est pas très loin de la mer non plus, donc voilà, on a fait un petit arrangement, mais c'est aussi très très beau Brocéliande, c'est une terre de légende aussi.
Terre de légende, voilà, vous en connaissez quelques-unes sans doute ?
Ah oui, parce que je les dévore depuis des années, depuis que je suis tout petit. Mes grands-parents me les racontaient. C'est un endroit. J'ai fait un conte qui s'appelait, enfin un spectacle qui s'appelait Légendes, Contes et Légendes de Brocéliande. Donc j'ai fait connaître Brocéliande à pas mal de gens en fait dans la région Rhône-Alpes. Je contais comme ça l'histoire de Brocéliande.
Et ce conte existe toujours. Vous pouvez.
Alors je l'ai arrêté parce que j'ai arrêté le métier, comme je l'ai dit. Maintenant j'écris, c'est tout. Par contre, je reprends ces contes maintenant en version écrite.
En version écrite, ouais.
Puisqu'un conte, vous le savez sans doute, c'est toujours improvisé. Il y a une trame, et après on dure une heure et demie sur une trame. Donc on improvise selon nos humeurs, selon nos publics, selon les réactions des gens.
Et ça s'adapte aussi à l'endroit, au lieu où on est.
Bien sûr, là je comptais à des gens qui n'étaient pas bretons. Hein. Si je compte ici, ça va être différent. Alors, mais j'ai pour projet de me balader dans Brocéliande pour conter des histoires de Brocéliande aux touristes ou aux vacanciers qui se baladent dans le coin. Et j'ai la chance d'habiter une maison qui est au plein cœur de Brocéliande, qui est une vieille maison qui date du 16e, du 17e, du 16e, je ne sais plus. Donc elle attire le regard des gens. Donc on va peut-être... Et ma femme fait des masques, inspirés aussi des personnages arthuriens, entre autres. Donc on pourrait peut-être travailler là-dessus.
Ah oui, oui, c'est magnifique. Les masques aussi, c'est un monde un peu à part, mais très révélateur quand même de personnalité. En fait.
Oui, il y a les facteurs de masques et clown aussi. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur une scène.
Ah oui, 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 oui. Oui. Donc, Brocéliande, les légendes, est-ce qu'il y a parmi les acteurs qui ont fait Brocéliande anciennement, est-ce qu'il y a un personnage qui vous attire davantage?
Oui, alors c'est le fou du roi, le fou d'Arthur, que j'ai eu la chance d'interpréter. Je viens de perdre son nom, mais je vais le retrouver. C'était le fou du roi, donc il pouvait tout dire à Arthur. Et puis un soir de beuverie, sans doute, Arthur l'a adoubé, et on a fait un chevalier à la table ronde. Donc c'est un homme qui maniait aussi bien la plume, le stylo et le verbe que l'épée, logiquement. J'ai beaucoup aimé ce personnage et j'ai basé là-dessus d'ailleurs mon spectacle et je pense que je vais écrire un truc sur lui qui est sans doute l'un des personnages les moins connus des Chevaliers de la Table Ronde.
Un petit mot pour nos amis qui n'habitent pas tous en Bretagne, loin s'en faut, sur qui était ce Chevalier de la Table Ronde.
Alors je suis en train de chercher son nom, là j'ai des trous de mémoire en ce moment, Eisenhower me guette, mais dès qu'il me revient,
on en parlera tout à l'heure, mais ces Chevaliers de la Table Ronde ont marqué bien sûr les chansons du Moyen-Âge, les gestes du Moyen-Âge, et c'est toujours resté présent. Alors, la Bretagne, Brocéliande, Saint-Malo, vous l'avez dit, j'allais presque dire la mer et la forêt, la terre. Et là, vous avez laissé votre métier d'acteur pour vous consacrer à l'écriture. Quel genre d'écriture pratiquez-vous ?
Alors, il y a plusieurs genres, en fait. Je suis assez éclectique. Comme le comédien que j'étais, qui faisait beaucoup de choses, de la comédie musicale au théâtre participatif, donc de prévention, j'ai eu la chance, en 30 ans de carrière en tant que psy, là, de rencontrer plein de gens, souvent en souffrance, mais les gens en souffrance sont des choses très intéressantes à raconter. Et ils ont souvent des très belles âmes aussi. Donc j'ai écouté ces gens-là et j'ai eu envie de parler d'eux. Alors bien sûr, quand je dis je parle d'eux, je ne raconte pas leur histoire vraiment, mais je me suis inspiré de certaines histoires que j'ai romancées, évidemment, pour en faire des bouquins. Donc ça va du thriller en passant par le policier, en passant par le livre un peu fantastique, un peu avec toujours un fond, c'est vrai, de psychologie, parce que c'était mon métier aussi. Donc je m'intéresse beaucoup aux personnages, à leurs traits, à leur personnalité. Et puis avec leurs histoires que j'ai adaptées. Donc voilà, un mélange de plein de choses comme ça. Et puis tout à l'heure, je parlais de mon autobiographie. Mes ancêtres étaient armateurs à Saint-Malo. Donc ils avaient cette notion de voyage. Et d'ailleurs, ensuite, on a continué à voyager. Et donc moi, à 19 ans, j'ai pris mon sac à dos. J'étais fan de Jacques Kerouac, que vous connaissez sans doute, un Breton aussi, même s'il vivait aux États-Unis. Fan de cet homme-là. Et donc j'ai voulu faire comme lui. Donc j'ai pris mon sac à dos et je suis parti. À pied, en moto, en stop, pour me balader pendant à peu près 2 ans avant de reprendre mes études. Et j'ai rencontré plein de gens, nous sommes dans les années 70, c'est l'époque des communautés, après les hippies, donc je vais être hébergé par une communauté, je vais rencontrer beaucoup de gens, et je raconte ces choses-là dans une trilogie pour le moment.
Le thriller par rapport au polar, personnellement j'aime beaucoup, je pense que dans le thriller, il y a quand même autre chose au niveau personnage, connaissance des personnages.
Ouais, il y a des gens très intéressants. J'ai un thriller qui s'appelle Chronique d'un avatar. C'est une jeune fille que j'ai eue en tant que patiente qui avait 17 ans, 16-17 ans, qui était passionnée par un jeu en ligne, un jeu virtuel. Une gamine, elle était ce qu'on appelle HP, au potentiel. Donc à 16 ans, elle était en terminale. Elle s'ennuyait en terminale parce qu'elle était meilleure que les autres et avait fermé toute communication. Elle n'existait que par son avatar. Elle refusait d'être humaine. Et donc elle se prenait pour une guerrière galactique qu'elle avait créée sur son jeu. Et donc la mère me l'a amenée parce qu'elle ne pouvait plus communiquer avec elle. Et donc je me suis inspiré de cette jeune fille-là pour écrire un roman sur justement le monde des jeux et ce qui peut se passer si l'avatar arrive à rentrer dans notre propre monde, sort du virtuel pour arriver dans le monde des vivants. Donc ce livre a eu beaucoup de succès auprès notamment des jeunes qui sont fous de jeux virtuels, de jeux en ligne, de choses comme ça. Donc j'ai écrit une suite et on me réclame un troisième tome maintenant.
Et le titre ?
Chronique d'un avatar.
Chronique d'un avatar.
Voilà. Donc ça mélange la SF, le fantastique et le psychologique.
Et pour décrire un tel personnage, c'est votre profession, bien sûr, mais en plus, il faut quand même creuser, comme on dit.
Oui, il faut vraiment... Vous savez, l'écrivain, lorsqu'il accorde beaucoup d'importance à ses personnages, ce qui est mon cas, il est aussi un peu psy. Il étudie les caractères des gens, il étudie un petit peu leur façon de fonctionner. Moi, j'ai vu cette jeune fille qui avait des côtés très attachants, très agaçants aussi. Elle citait constamment des auteurs. Elle avait une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire absolue, presque absolue. Elle citait constamment des auteurs, comme ça. Elle avait une culture assez extraordinaire. Et avait un sens de l'observation assez délirant. C'est-à-dire que moi, je faisais de l'aïkido, des arts martiaux. Et un jour, lors d'une séance, je ne sais pas pourquoi, je lui ai montré une parade d'aïkido. Et 15 jours plus tard, elle m'a fait toute une série de clés, de choses comme ça. Je lui ai dit, mais tu as pris des cours ? Elle m'a dit, non, j'ai vu un film à la télé. Elle avait mémorisé toutes les prises, les clés qu'on pouvait faire, et elle arrivait à les reproduire, rien qu'en observant. Donc c'était un personnage passionnant pour en faire un roman, évidemment.
Et les gens qui passent beaucoup de temps comme ça en jeu vidéo, qui passent des nuits, ces gens-là, bien sûr, ils sont pris dans leur affaire, mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences quand même sur leur vie ?
Si, mais c'est pour ça que ce bouquin aussi a été choisi pour être lu dans des collèges notamment, parce qu'il a à côté aussi prévention, parce que cette jeune fille, en fait, on appelle ça une no-life, sans vie. Mmh. C'est-à-dire qu'elle était devenue son avatar, mais son corps, on va dire physique, humain, ne l'intéressait plus. Autrement dit, elle ne mangeait pratiquement plus, elle se laissait aller, elle se sentait mauvais parfois, elle ne se lavait plus, hein. Elle ne communiquait plus du tout avec les autres. Donc en fait, son avatar prenait de la puissance et elle diminuait au fur et à mesure. C'est extrêmement dangereux. C'est considéré comme une drogue, comme une addiction.
C'est en marge de la société, et pas seulement en marge de la société, c'est isolé carrément, devenir solitaire.
Totalement isolé, c'est-à-dire qu'elle avait des relations uniquement en fait, avec les personnages avec lesquels elle jouait.
Ah oui, tout à fait. Donc, la trilogie, vous avez publié deux, oui. Et le troisième qui va sortir.
Le troisième est en route. Donc, ça s'appelle Errance d'un pantouflard. Mmh. Errance d'un pantouflard, pourquoi ? Parce que j'ai un côté pantoufle, ça fait beaucoup rire un journaliste, un de vos collègues, lorsque je lui dis, lorsque j'avais mon sac à dos, j'avais toujours mes pantoufles dans mon sac à dos. Autrement dit, lorsque je dormais le soir dans la tente, à la Belle Étoile ou ailleurs, je mettais mes pantoufles. Je dormais à la dure, mais confortable.
Vous pourriez nous en dire un peu plus, peut-être, sur ce livre en cours ?
Oui, alors, livre en cours, c'est la suite des deux premiers tomes. Hein. Donc, l'histoire, c'est quoi ? Tout simplement l'histoire d'un gamin qui se prend pour Kerouac, qui va vivre des excès, sans doute, au niveau de la drogue, au niveau de l'alcool, au niveau de pas mal de choses, qui va partir comme ça, parce qu'il veut connaître la route. Un peu comme Kerouac l'a fait, ou je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, qui s'appelait Charles Duchossois, qui a écrit un bouquin qui s'appelait Flash ou Le Grand Voyage. C'était un type qui avait un côté journaliste aussi, qui voulait enquêter sur le mouvement hippie à l'époque, notamment sur les jeunes qui partaient mourir à Katmandou. Donc il s'est dit le seul moyen de connaître ça, c'est de faire comme eux. Donc il est parti sur la route, il s'est drogué avec eux, il est parti jusqu'à Katmandou et était rapatrié en avion sanitaire dans un sale état. Mais il avait ce côté, je regarde ce qui se passe, je participe mais je regarde en spectateur aussi pour pouvoir décrire ensuite ce que j'ai vu. Ça a été un petit peu aussi mon itinéraire, c'est-à-dire que je participais aux bêtises que font les gamins de 19 ans parfois, mais j'avais toujours en souci l'idée de témoigner de ce que je voyais. Notamment quand j'ai vécu dans cette communauté de ce qu'on appelait des communards, aujourd'hui on dirait des néo-ruraux, je les ai regardés vivre et j'ai écrit, j'ai témoigné, des années après bien sûr, parce que j'ai écrit ça en 2000, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a 2-3 ans j'ai commencé, mais j'ai voulu jeter ce regard d'un jeune de 19 ans sur ces gens qui avaient fait 68, qui avaient été déçus par 68 et qui avaient décidé de partir en Ardèche, puisque ça se passe en Ardèche, acheter une vieille ferme en ruine et essayer de vivre de leurs chèvres, de leurs cueillettes et un petit peu de leur sein parfois.
Les hippies Katmandou.
Ouais.
Maintenant, c'est pas qu'on les ait oubliés, mais néanmoins, les générations plus jeunes ne connaissent plus ce temps-là. Et parfois, on a l'impression de redécouvrir le côté nature, le côté proche de la nature. Et ces gens-là ont pratiqué, et ce que vous dites est, comme le reste d'ailleurs, particulièrement exact, en ce sens qu'ils étaient pris pour les gens de l'extérieur.
Oui.
Ils n'étaient pas ruraux, ils voulaient devenir ruraux. Alors leur réputation était en général chevelons.
Chevelons et idées courtes, comme disait Johnny, oui. Mais les idées n'étaient pas si courtes que ça. Les gens qui ont survécu, parce que c'est vrai que le mouvement hippie, on va souvent l'identifier à la drogue, l'identifier au laisser-aller, l'identifier à l'amour libre, ce qui n'est pas totalement faux pour certains. Mais ceux qui s'en sont sortis, ceux qui avaient vraiment un idéal de vie, qui était un retour à la nature, un retour à l'essentiel, en fait, pour eux, je crois qu'ils ont survécu. Moi, j'ai rencontré, et d'ailleurs, c'est marrant, on parlait de Brocéliande. En Brocéliande, du côté de Pimpon, on rencontre beaucoup de gens comme ça. Qui était qui architecte, qui ingénieur, qui médecin aussi. Et aujourd'hui, ils vivent dans une ferme qui sont retapées. Ils vivent de leur jardin. Ils vivent simplement, ils disent, parce que j'ai choisi ce retour aux valeurs essentielles qui sont la nature, qui sont les gens, qui sont les proches, qui sont des choses comme ça. Je me suis débarrassé de mon portable, de ma voiture, de ces choses-là. Je ne les juge pas, je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas c'est mauvais. Je dis c'est intéressant d'aller au bout de ses envies, de ses idéaux.
On avait concentré ça sous quelques mots, et comme vous le dites, ça allait bien au-delà.
Oui.
Ce sont des choix qui avaient été faits, amour et eau fraîche peut-être, mais ce n'était pas dénué de réflexion.
Alors l'eau fraîche était souvent remplacée par du vin de mauvaise qualité.
Et l'Ardèche revenait souvent quand même.
Oui, c'était souvent en Ardèche. L'Ardèche, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'Ardèche et de cette époque-là, il y a eu Pierre Conti, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet homme-là, qui était ce qu'on appelait justement un anarchiste hippie, un communard hippie, mais qui lui a choisi la violence, parce que contrairement à ce qu'on croit, ils n'étaient pas tous pacifistes et non-violents. Et Pierre Conti, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, de cet homme-là, qui a cassé une banque, mais je crois qu'il a tué le caissier, et puis il a tué ensuite, il est tombé sur deux policiers totalement par hasard, qu'il n'avait pas reconnu, mais il les a descendus, ensuite il a tué un homme pour piquer de sa voiture, donc c'était vraiment le violent qu'on n'a jamais retrouvé, qui se planquait dans des communautés en Ardèche, ce qui fait qu'à l'époque où moi j'ai pris la route, où j'ai rencontré ce genre-là, c'était un petit peu tendu avec les gendarmes, parce que Pierre Conti détourne toutes les mémoires, encore.
C'était retrouver des territoires qui commençaient déjà à se désertifier. On a eu en Bretagne aussi, notamment au centre Bretagne, Trémargat.
Oui,
connu le coin de Trémargat. Comment des gens se sont installés comme ça. Les réactions des gens aussi qui les voyaient arriver. Alors, c'était l'étranger, mais
oui,
surtout le mode de vie, qui n'était pas du tout la même chose, quoi. Et c'est... Oui, c'est dit chevelon. On disait en breton, blauhir.
C'est ça. Mais c'était souvent des villages en Ardèche qui avaient été abandonnés, qui étaient totalement redevenus sauvages, entre guillemets, la nature. Il n'y avait plus que quelques masures qui traînaient comme ça. Et ces gens rachetaient, pour une bouchée de pain, pratiquement, de façon symbolique, toutes ces vieilles bâtisses, et ils les retapaient. Certains ont réussi, d'ailleurs, à créer des villages qui ont bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit à peu près le même mouvement, d'ailleurs. Alors, il n'y a plus le côté, je dirais, rébellion qui pouvait exister à l'époque, puisqu'on est après 68, peu de temps après 68. Mais il y a ce côté, quand même, de revenir à d'autres valeurs, quoi. Et je vous dis, vers Brocéliande, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, oui.
Et qui ont retrouvé une vie aujourd'hui, j'allais presque dire d'avant-garde, sur la gestion, parfois des communes petites, mais ils ont trouvé des systèmes en alternance, chacun son tour qui était maire, et c'est pas dénué du côté argent. Et ils ont raison, ils sont dans le coup en fait.
Ils sont beaucoup dans le troc. En fait, ils réinventent une société qui existait déjà, en fait, il y a quelques siècles. Tout simplement, parce que le troc, c'est vieux comme le monde. Et donc, ils troquent beaucoup, ils vont échanger leur pain contre des choses comme ça, et ils vivent entre eux, et je trouve que c'est bien, à partir du moment où ils n'embêtent personne, ils ne gênent personne, et ils vivent leur vie. Donc, pourquoi les ennuyer?
En plus, il y a cette solidarité qui est tant revendiquée par beaucoup de gens, mais eux, la pratiquent.
Et d'ailleurs, cette solidarité, je l'ai vu en Bretagne, lorsqu'on s'est installé dans notre maison, on nous regardait un petit peu, on nous prenait pour des Lyonnais en vacances. Donc les gens nous regardaient, ils étaient très sympas, mais ils nous regardaient comme ça. Et puis quand j'ai dit que ma famille était de Saint-Malo, que je revenais aux origines, ça a complètement changé. Ah oui, mais c'est pas pareil, tu reviens au pays.
Oui, oui.
Et ma femme qui est auvergnate, on discutait avec des Bretons, et elle a dit, bah, je suis auvergnate, donc ah oui, mais Auvergnat on aime bien nous les Bretons quand même. Mais j'ai épousé un Breton. Ah oui, d'accord.
C'est ça. Mais là, vous résumez... Vous résumez parfaitement.
Voilà.
Cette ambiance.
Et il y a des gens, beaucoup de fermes, il n'y a que des fermes autour de nous. Hein. Les voisins les plus proches sont à 700 ou 800 mètres. Mais on était reçus, mais ils sont d'une gentillesse et d'un accueil. Ils sont vraiment très sympas, quoi. On n'est plus les fadas qui venant de la ville, comme on dit dans le midi. On est des gens qui ont repris cette vieille maison qui était en train de s'abîmer. On est en train de la retaper, mais on la laissant dans son jus, hein, parce que c'est une vieille, un vieux manoir. Et les gens sont contents de ça, en fait. Qu'on redonne de la vie à ces maisons, aux écoles du coin, aux artisans du coin, puisqu'on travaille qu'avec eux.
Et ils vous voient travailler.
Et ils nous voient travailler. Oui, ça c'est important. La paysanne du dessus, la fermière, elle m'a dit « Ah, mais c'est que tu te lèves tôt, à 6h30, t'es debout, hein, et tu bosses. »
Ouais.
Et ça, pour eux, ça a de la valeur.
Ah oui, oui, oui. Celui qui travaille pas de façon visible, encore moins, mais il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, déjà, quand on voyait un homme qui travaillait dans un bureau, on dit quand même, quand on voit son corps, c'est un homme musclé, comment il perd son temps comme ça ? Il travaille assis. Je pense aussi à ceux qui ont eu des tracteurs au début.
Oui.
Celui qui avait un tracteur, il dit, mais il est feignant. Il veut même plus marcher, quoi. Et il travaille assis toute la journée. En fait, et il travaille pas.
Il travaille pas. Bah oui, c'est ça, oui. Et là, voilà, de voir. Alors, on est à la radio, on me voit pas, mais je fais 1m90, je fais 120 kilos, donc je suis assez large. Et la dame, tout de suite, me l'a dit. Mais toi, avec un corps comme ça, tu vas bosser, hein.
C'est ça. Peut-être que chez les Auvergnats, c'est un peu pareil.
C'est un peu ça, les Auvergnats aussi. Hein. Allez, même si mon épouse, qui est devant la maison, devant le studio, fait 1m55 et moi 1m90, donc on passe pas inaperçu, mais c'est des bosseurs aussi, les Auvergnats.
Tout à fait.
Avec un sacré carafon aussi, parfois.
Oui, ouais, ça fait partie du monde, peut-être du monde de la campagne. Et,
je pense.
On parle nature maintenant beaucoup. On entend les gens de la ville, mais d'autres aussi. Dire sans arrêt, la nature c'est bien, il faut l'entretenir, il faut la protéger, il faut conserver la nature. Ils ont entièrement raison. Une chose est de parler, une autre chose est de faire.
Voilà.
Brocéliande attire encore un peu de monde, mais je connais d'autres régions comme nous tous, en Bretagne et ailleurs, où vous circulez dans les forêts, vous ne voyez personne. Alors que... On s'entache sur les plages ou dans les grandes villes. Ça, c'est un phénomène que je comprends pas, que je constate comme tout le monde. On parle d'eux, mais on ne pratique pas.
Mais alors le problème, c'est que je pense que les gens du coin parfois sont complices. On parle de Brocéliande, il y a différents sites à voir, hein, le tombeau de Merlin, la fontaine de Marenton. Bon, et il faut se balader en forêt pour les voir, donc il faut marcher en forêt. Et on découvre la forêt en même temps. Le problème, c'est qu'ils ont mis des parkings à 300-400 mètres de chaque site aussi. Donc soit on passe en forêt, soit on part en bagnole. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils se garent, ils font 300 mètres à pied, ils prennent la photo de la fontaine, reviennent et vont sur un autre site en bagnole. C'est-à-dire qu'ils bouffent de l'essence, ils polluent un petit peu le coin. Et ne voient pas la forêt du tout. Ils ont pris la photo. Et ça, c'est un peu avec la complicité quand même des gens du coin qui font des parkings de partout. Et quand vous vous baladez en forêt, ce que je fais beaucoup, on fait 10, 12, 15 km souvent en forêt, on ne voit personne. C'est que les gens font 200 mètres et puis reviennent, mais ne se promènent pas en forêt. Donc ils ne peuvent pas découvrir la richesse et la magie de cette forêt, pas seulement la forêt de Brocéliande, hein, les monts d'Arrée, enfin tous ces coins-là sont magnifiques, hein, mais il faut les découvrir. Et pour revenir à ce que vous disiez, les gens de la ville souvent... parlent de nature, les paysans la vivent. Ils n'en parlent pas.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est la même chose pour beaucoup de sujets en réalité, quoi, puisque on est dans le monde de la communication.
Ouais.
Donc pour montrer qu'on connaît quelque chose, qu'on s'intéresse, on va toujours dire. Et puis finalement, ça ne va pas tellement plus loin.
Non, on parle beaucoup.
On parle beaucoup. Et je crois qu'on n'a pas envie de vivre, enfin, ces gens-là n'ont pas envie de vivre vraiment la nature. Ils sont même prêts à contester la nature. Pour peu qu'ils se fassent griffer par une ronce,
ah oui.
On a l'impression que ça y est, quoi. La ronce aurait tombé dessus parce que c'est eux.
Et c'est la ronce qui se venge.
Ah oui, oui.
Qui leur veut du mal.
Ouais, ouais, ouais. Et il faut couper ça le plus vite possible. Pour
ouais, il faut tout arracher.
Pour qu'elle arrête de nuire. Pour revenir à vos livres, il nous reste 3-4 minutes d'émission. Vous pourriez nous dire quelques mots pour terminer, pour rappeler vos livres, oui. Les titres, où on peut les trouver, bien sûr, et un peu le contenu pour donner envie à nos nombreux auditeurs de venir vers vous, Jean Jouteur, et qu'ils se procurent vos ouvrages.
Donc le meilleur moyen, c'est d'aller sur mon site, parce que c'est vrai que je ne peux pas parler, j'ai 7 ou 8 bouquins, là, plus un essai sur le théâtre participatif, donc qui était mon métier. Mon site, c'est jeanbjouteur.com, tout simplement. D'ailleurs, je crois être le seul jouteur, de toute façon, pratiquement avec mon frère. Et voilà, on est très peu de jouteurs en France, donc on nous trouvera facilement. Jeanbjouteur.com. Les bouquins, donc il y a du thriller, comme j'ai dit, il y a du polar. Et pour le moment, c'est vrai, je suis sur cette autobiographie. Et puis aussi un autre bouquin qui s'appelle Cahier d'un chevrier qui venait de la ville. Parce qu'à la base, j'étais juriste. Et j'avais fait mon droit pour défendre la veuve et l'orphelin, et puis je ne l'ai pas fait, je travaille pour une grosse boîte, donc j'ai tout vendu, et puis j'ai acheté une ferme et des chèvres anémiques, et je me suis lancé dans l'élevage de chèvres, et ce sont les vieux paysans encore qui m'ont appris ce métier, des gens qui avaient 80 ans à l'époque, hein, qui m'ont appris ce métier. Et donc j'ai voulu témoigner non pas de mon expérience, mais de ces gens qui n'existent plus, de leurs fermes qui sont devenues soit des maisons de vacances, soit des ruines, tout simplement. Et donc je parle, c'est des nouvelles assez courtes, où je parle de ces gens-là, qui existaient il y a encore quelques années, quoi. Et qui eux aussi avaient une solidarité de paysans, en fait, hein, pour ce jeune, excusez-moi l'expression, ce jeune con qui venait de la ville et qui se prenait pour un paysan. N'empêche qu'ils ont fait de moi quand même un paysan.
Vous avez eu le mérite, et vous l'avez toujours, celui d'écouter.
Ouais. J'aime écouter les gens qui en savent. J'aime la compétence et les gens. J'aime la notion de maître, mais dans le sens noble du terme.
En écoutant, on apprend toujours quelque chose. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais néanmoins, on le garde en mémoire. Et on l'applique au besoin. Et dans ces cas présents de chevrier, je pense qu'on a quand même beaucoup à apprendre encore de ce qu'ont fait ces gens-là. Bien sûr, il n'est pas question d'être nostalgique et de revenir en arrière, mais peut-être qu'ils avaient de l'avance sur leur temps. Un petit mot pour conclure ?
Un petit mot pour conclure, c'est je vous remercie de m'avoir reçu. Là, je parle non seulement à mon intervieweur, mais aussi au chef réalisateur qui est là. Alors, je ne dis pas les prénoms parce que je ne les connais pas. Mais...
Donc, c'est Frédéric.
Mais je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'était Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous avons reçu Jean Jouteur et nous nous retrouverons samedi prochain à 11h pour une nouvelle émission.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.